Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Il est en musique, le chroniqueur futé de nos vies ordinaires, dont la plume réaliste à l'humour pince sans rire fait merveille aussi au cinéma. Benabar est à l'affiche d'un vaudeville cinématographique ultra contemporain, irrésistible, qu'il a co-écrit avec le réalisateur Hector Cabello-Reyes et qui pose cette question. Que se passe-t-il lorsqu'un couple se sépare, quand les beaux-parents ne veulent pas rompre avec leur gendre? Le gendre, c'est lui, Benabar, et les beaux-parents seront Josiane Balasco et Didier Bourdon. Beaux-parents, sans salle, mercredi.
Europe 1.
Bonjour, bienvenue dans cette émission.
Bonjour, merci de me recevoir.
Alors Benabar, mais quel luxe de réussir à transformer une de ses chansons en un film. En fait, c'est la parfaite quadrature du cercle pour un chanteur qui aime faire l'acteur.
Ben oui, c'était assez inattendu, un peu inespéré aussi. Ça s'est fait assez naturellement grâce à un copain scénariste qui s'appelle Jean-Paul Battani. Et j'avais fait la chanson en l'occurrence en question et j'en étais pas content, je l'avais enregistrée mais elle était compliquée, ça arrive parfois dans les chansons, souvent de temps en temps d'ailleurs, c'est des périodes assez difficiles. Mais là en l'occurrence je tournais autour, puis c'est un copain qui m'a dit mais ça c'est un pitch de film, c'est pas un pitch de chanson. Et puis donc on a commencé à travailler avec Hector et nous voilà.
Et vous voilà, donc la naissance de ce film Beaux-parents, elle s'explique par le fait qu'en fait... Vous écrivez toujours des chansons qui sont comme des pitchs de films, c'est ça?
Ben je crois,
oui. Il y en a pas mal dans lesquelles, n'est-ce pas, on pourrait piocher l'idée de départ d'un scénar.
Et un petit peu, je crois, sans me forcer, mais je me rends compte que je passe beaucoup de temps, oui, à chercher le démarrage de la chanson.
Alors, on est bien d'accord, Benabar, votre vocation première n'était pas de devenir un chanteur à succès, mais d'être scénariste pour le cinéma.
Oui. Et encore aujourd'hui, c'est un métier qui me passionne. Bah, j'ai pu le faire avec Hector là sur ce film-là. C'est un métier, un métier, j'ose pas le prétendre, mais en tout cas une activité dévorante dans le bon sens du terme. C'est, on pense qu'à ça, on s'endort en pensant au film, qu'est-ce que pourrait faire le personnage. Encore plus que dans une chanson, parce que dans une chanson, ça dure 3 minutes. Donc là, vraiment, il y a tout, il y a un côté.
Imaginez tous les développements.
Mais oui, il y a un côté.
Et tout ça doit tenir sur 1h30.
Tous nos personnages, c'est très excitant, quoi.
Alors, sauf que là, Benabar, l'exercice, effectivement, il est singulier, car vraiment l'écriture de Beaux-parents reprend toutes les règles du vaudeville et de ses, en fait, quiproquos tricotés en cascade. Si Fedot ou Labiche vivaient en 2019, ils écriraient cette comédie déjantée.
Ah bah, j'ose pas le prétendre.
Je vous le dis.
c'est gentil, mais c'est trop d'honneur.
Les yeux dans les yeux.
Mais franchement, c'était un objectif qu'on avait avec Hector. Ouais, on est tous les deux passionnés par les vaudevilles et puis par cette mécanique d'écriture qui installe cette mécanique infernale dans tous les vaudevilles. Parce que les vaudevilles, il y a quelque chose de sombre. Ce sont des personnages qui sont complètement écrasés par les événements, par les quiproquos, par les malentendus, les portes qui claquent.
Ce qui se passe dans
Beaux-parents. C'est vraiment ce qu'on a fait dans Beaux-parents. Ouais.
Alors, vous dites le vaudeville, souvent, c'est quelque chose de sombre et on s'en rend pas trop compte à cause du rythme effréné de la fantaisie, mais vous savez que on aime dire que la tragédie, c'est de la comédie qu'on joue vite. Il y a aussi ce principe dans la comédie italienne, n'est-ce pas? Vous êtes inspiré de tout ça pour écrire Beaux-parents?
Ben oui, on a tous notre background, entre guillemets, de tout ce qui nous a enchanté, et cette volonté de, aussi avec le théâtre filmé, avoir des situations très fortes, des personnages très forts, très identifiables, ça nous a beaucoup plu avec Hector, et puis après on s'est aussi laissé aller au long de l'histoire, et puis essayer de s'attacher au personnage, qui est un deuxième travail, qu'on a beaucoup recherché à faire en sorte que ce soit quand même réaliste et crédible.
Alors, vous avez donc amené au réalisateur l'idée du film née en fait dans une de vos chansons. Que se passe-t-il, je le répète, quand des beaux-parents ne veulent pas rompre avec leur gendre? L'idée l'a convaincu, mais il a fallu en faire un film d'une heure et demie. Ça semble évident comme ça d'écrire à quatre mains, mais en fait, comment ça se passe quand vous êtes convaincu par une idée qui ne séduit pas votre camarade?
Il y a une alchimie dans le fait d'écrire à deux. Ça marche pas forcément. Il se trouve avec Hector, ça se passe bien entre nous parce que justement, il y a pas, on se dit sans embâge. C'est-à-dire que si ça ne fait pas marrer l'autre, on vire l'idée immédiatement, on passe à autre chose. Donc ça permet d'aller très très vite. Donc ça permet d'aller jusqu'au bout du récit. Quoi.
Mais vous aviez déjà travaillé ensemble pour l'écriture d'une pièce de théâtre?
On avait déjà fait une pièce de théâtre ensemble, que j'ai jouée il y a 2 ans, là, mise en scène par Isabelle Nanty.
Oui.
Et il avait écrit avec Eric Lavenne un Cognito dans lequel j'avais joué et auquel j'avais participé à l'écriture aussi.
Différent d'écrire pour le théâtre? Puisque maintenant, vous avez vraiment tout survolé entre la chanson, le théâtre, le cinéma. Là, il y a une grosse différence entre l'écriture d'une pièce et celle d'un film?
Grosse, j'irai pas jusque-là, surtout quand le film est volontairement vaudevillesque, donc assez théâtral dans la structure. Mais oui, c'est quand même différent pour des raisons d'ailleurs très, très triviales et terre-à-terre. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit un lieu ou deux lieux au théâtre, alors que dans le cinéma, on peut faire autant de décors qu'on veut. Il peut y avoir beaucoup de personnages. Donc on a plus de cordes à son arc qu'au théâtre.
Benabar, vu le marché actuel du cinéma, quand on écrit un film, même avec les meilleurs, vraiment, on ne sait jamais s'il sera tourné.
Ah oui. Ah bah d'ailleurs, ça a été un petit
peu... Ça vous est arrivé souvent, ça ?
Non, parce que j'ai pas écrit d'autres films que celui-là. Enfin, si, quand j'étais jeune scénariste. Mais depuis, non. Mais ça, c'est le problème du cinéma. C'est difficile à monter. C'est aussi parce que c'est un art qui coûte très cher. Donc, évidemment, il y a des tenants et des aboutissants qui me dépassent un petit peu. C'est difficile à monter. Après, il faut le tourner, ce qui est difficile. Après, il faut la post-prod, ce qui est difficile.
Et après, il faut le distribuer.
Et après, il faut le distribuer. Et puis après, il y a le moment qui est à la fois de bonheur et de plénitude où on le livre au public et aussi de stress réel, parce que là, c'est la réalité des choses. Est-ce que
avec
les gens s'attachent ou pas au film ?
Avec un an d'écart, puisque le tournage, il est
avec
terminé depuis plus d'un an.
Puis nous, on a commencé à écrire depuis 3 ans.
3 ans ? Ouais. Ah oui, c'est 3-4 ans un film, on va dire.
Ah oui, entre l'écriture et le... Oui, nous, ça fait 4 ans, je crois. Donc c'est pour ça que c'est très émouvant pour Hector et pour moi, parce que c'est vraiment une partie de notre vie quoi, qui sera terminée. Et puis là, on aura à juste titre, d'ailleurs, parce que c'est quelque chose que j'assume parfaitement et que j'accepte, j'allais dire la sentence, j'espère que ce ne sera pas une sentence, mais la vie du public.
Alors Benabar, dans Beaux-Parents, cette comédie à tiroir faite de quiproquos en cascade, qui sort donc mercredi, c'est vous qui tenez le premier rôle, celui du gendre idéal, largué par sa chérie, mais que ses beaux-parents ne peuvent pas se résoudre à ne plus jamais voir. Situation encore jamais abordée au cinéma, hein, mais dans laquelle pas mal de familles, à mon avis, pourront se reconnaître. Vous saviez, Benabar, que vous joueriez le rôle, en fait, quand vous l'avez écrit, le premier rôle du film, celui
non.
du gendre idéal largué ?
Non, vraiment pas. C'était pas du tout une condition sine qua non ou une envie de base. Au contraire, c'était vraiment deux scénaristes, simples scénaristes. Et même quand le film a commencé à prendre forme, j'avais dit à Hector... que c'est pas forcément moi, que c'est pas ce que je cherche forcément, et puis c'était sincère.
Et pourquoi c'est vous finalement ?
Bah ça s'est fait vraiment, c'est devenu une évidence en fait, j'avais l'âge du rôle, et puis pour des histoires de production, c'était aussi, ça facilitait certaines choses, donc ça s'est fait comme ça naturellement, et puis moi j'ai relevé le gant tout de suite, donc j'ai commencé à travailler ça, mais pour moi c'était pas un package, j'écris le scénario et je joue le rôle, c'était pas du tout le... Moi je suis pas avide de faire l'acteur, ça m'intéresse beaucoup et ça me passionne quand je le fais, ce qui a été le cas, mais si je le fais pas pendant 5 ans, ça m'empêchera pas de dormir. Europe 1.
En tout cas, si je résume, eh bien, j'ai en face de moi un chanteur qui vient de s'écrire un premier rôle au cinéma. Voilà, la comédie a pour titre Beaux-parents, elle sort mercredi. Et cet après-midi, eh bien, on se balade en compagnie de Benabar. A tout de suite.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1.
Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie, une heure en tête à tête avec une personnalité pour parler de son actu, mais pas que, l'occasion aussi de retracer son parcours et parfois de faire tomber les masques. Cet après-midi, c'est au tour de Benabar de se raconter. Nous sommes avec Isabelle Morizet jusqu'à 16h sur Europe 1.
Il chante, il écrit, il joue. Et comme il fait tout ça avec une fantaisie savoureuse, Benabar, eh bien il a co-écrit la comédie dont il tient le rôle principal, Beaux-parents, qui sort en salle mercredi. Alors Benabar, vous êtes né au milieu des livres, d'une forêt de livres, puisque votre maman tenait une librairie au sud de la région parisienne, n'est-ce pas ?
Oui, c'était à Saint-Germain-les-Corbeil, à côté de Corbeil-Essonne, Évry, à 30 bornes de Paris dans le sud.
Donc, les livres vous ont immédiatement fasciné ou vous étiez totalement indifférent ?
Totalement indifférent dans un premier temps.
Non.
Je suis un lecteur tardif, moi, mais ma maman lisait beaucoup. Donc, il y avait des livres partout. Et puis, évidemment, elle était libraire. Mais je suis devenu lecteur vers 25 ans, 30 ans.
Et sur quel déclic ? À cause de ou grâce à quel auteur ?
Bah, y a eu les premiers émois adolescents en lisant Lautréamont, des trucs comme ça qui étaient très romantiques, la poésie noire, etc., qui convient beaucoup aux adolescents. Et par la suite, des chocs, il y a eu Balzac, qui est encore un choc pour moi aujourd'hui. Mon premier album s'appelle La Petite Monnaie, qui est inspiré d'une phrase de Balzac. Ça a été mon choc principal. Puis après, j'ai découvert aussi la littérature du 19e siècle qui me passionne encore, Maupassant, Flaubert... et puis l'immense La Fontaine. Voilà. Moi, je suis un peu monomaniaque en écriture, donc je suis vraiment à fond dans Balzac, à fond dans Maupassant, à fond dans La Fontaine, qui est mon livre de chevet réel.
Mais alors, votre maman, qui, autant par goût que par devoir professionnel, lisait en moyenne 4 à 5 livres par semaine, n'a pas réussi à transmettre cette gourmandise littéraire à son fils ?
Non, je ne suis pas un lecteur.
Elle a tenté de le faire, non ?
Non, elle n'a pas tenté de le faire, mais c'est vrai que rien que de mettre des livres, c'est comme les instruments de musique. S'il y en a dans la maison, même s'il y a un piano auquel on ne touche pas quand on est petit, on a quand même vécu avec un piano, donc quand même ça ouvre des portes, je pense. Et le fait qu'il y ait des livres, qu'il n'y ait pas uniquement une télé dans le salon, et qu'il y ait, mais même pas forcément 500 000 livres, mais qu'il y ait de quoi lire, ça ouvre des petites fenêtres quand même dans l'esprit des enfants.
Alors votre père, lui, était régisseur de cinéma, il est ensuite devenu producteur exécutif. À partir de quel âge l'avez-vous suivi sur les plateaux, Benabar ?
On allait le voir avec mes frères de temps en temps, mais on le suivait pas. C'est-à-dire qu'on était pas, on n'est pas du tout enfant de la balle. Nous, on est déjà lui, il était technicien, donc c'est autre chose. C'était pas la partie artistique des tournages. Et donc on allait le voir de temps en temps. On allait voir notre papa au travail, mais c'était
papa au travail, mais voilà. Un travail singulier tout de même sur des plateaux de cinéma.
Oui, sur des plateaux de cinéma, mais lui c'était l'envers du décor. C'était les camions, la régie, tout ça. Et ce qui est un métier d'ailleurs passionnant et très noble.
Il y a un tournage en particulier qui a marqué votre enfance, puisque vous dites avec vos frères, vous avez deux frères, n'est-ce pas ? Parfois, vous débouliez sur les plateaux de cinéma.
Bah oui, quand il avait fait l'Africain avec Philippe Noiret et Catherine Deneuve en Afrique, on avait été en Afrique, donc ça c'était un souvenir.
Ah, tout de même !
Mais c'est plus pour l'Afrique que pour le film, qui est très bien d'ailleurs, mais c'est un souvenir d'enfance en Afrique. Ouais, ça, c'est...
Mais alors pourquoi dites-vous que vous avez grandi sans vocation, alors que l'univers dans lequel officiait votre père, tout de même... était interpellant, à défaut d'être fascinant à vos yeux. Vraiment, vous ne vous êtes pas dit « Ah, peut-être plus tard je ferai comme lui. » Jamais.
Non, je ne me suis pas dit ça, mais il se trouve que j'ai été quand même régisseur pendant une dizaine d'années, que j'ai fait des courts-métrages comme réalisateur, et puis qu'aujourd'hui je viens de faire un film. Donc, même si je ne me suis pas dit, peut-être que mon inconscient se l'est dit, bah, on a tous cette tendance quand même, d'une façon ou d'une autre, à suivre un peu les traces de nos parents. Quoi.
Mais alors, régisseur d'abord, pourquoi ? Parce que vous ne saviez pas quoi faire d'autre quand vous aviez 18-19 ans,
voilà,
c'est ça ?
Voilà, si mon père avait été boulanger, je pense que j'aurais travaillé dans sa boulangerie. Mais avec mes frangins, on est tous passés par là. C'est stagiaire régie, et qui m'a passionné d'ailleurs de conduire des camions.
Ça consiste en quoi en fait,
régie. C'est tout ce qui, c'est toute la partie de la production appliquée au tournage, c'est-à-dire tout ce qui amène ce dont on aura besoin sur le plateau, c'est-à-dire tout ce qui construit le plateau avant que l'artistique arrive.
Alors, régisseur, vous l'avez été pendant plusieurs années, avant d'être promu deuxième assistant réalisateur. Oui. Mais comment passe-t-on de la régie à assistant réalisateur ? Vous aviez fait une école de cinéma entre-temps,
non,
ou pas du tout ?
C'est les métiers assez proches, l'assistant réalisateur, bah, c'est celui qui va chercher les cafés pour les acteurs, qui va les chercher aussi le matin chez eux, enfin, qui s'occupe de tout ça, qui fait le silence. Quand vous voyez des gamins dans la rue, avec des toquilles en train de dire « silence s'il vous plaît » ou de bloquer les bagnoles, bah c'est eux. Et je les embrasse.
Alors je sais que vous avez aimé cette période de votre vie, Benabar. Mmh. On apprend un milliard de choses quand on passe ses journées à, entre autres, amener des cafés aux stars dans leur loge avant de tourner. On observe, on écoute. C'est une autre forme d'école de cinéma ?
Oui, je crois. Oui. C'est une école, entre guillemets, alors ça va être risible, mais c'est aussi les écoles de la vie. C'est de venir par la petite porte, quoi. Que ce soit en l'occurrence, c'était dans le cinéma, mais bon, ça n'avait de cinéma aussi que l'aspect plateau, parce que sinon, je conduisais des camions, je bougeais des caisses quand même.
Mais alors, qu'est-ce que vous avez appris d'essentiel sur le cinéma lui-même ?
Pas grand-chose. La façon de le faire, j'ai appris le fait de travailler, de se lever tôt, d'être responsable de quelque chose, d'être à l'heure. Ce sont des choses importantes à inculquer à un gamin de 20 ans, d'être gentil. S'il faut aller chercher un acteur à 6h du matin, il faut être à 6h du matin, y compris si on fait la fête la veille. Enfin, c'est des trucs comme ça qui structurent et qui sont utiles pour la suite.
Vous n'imaginiez certainement pas à l'époque que en 2019, vous tiendriez le premier rôle d'une comédie avec Josiane Balasko et Didier Bourdon.
Non,
à cette époque-là.
Non, ça c'est sûr que non. Et Josiane non plus.
On fait une courte pause et on retrouve tout de suite Benabar cet après-midi, mon invité.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, avec Isabelle Morizet sur Europe 1.
La suite de Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, et elle déroule le fil des souvenirs comme chaque week-end. C'est Isabelle Morizet, la conversation avec son invité se poursuit jusqu'à 16h sur Europe 1.
Il est à l'affiche d'une comédie irrésistible qui ressemble à un vaudeville ultra contemporain avec quiproquo en cascade. Lui, c'est Benabar. La comédie, eh bien, elle a pour titre Beaux-parents, elle est en salle mercredi. Et on agite le fil de la mémoire, on continue Benabar. On vous quitte, deuxième assistant réalisateur sur un plateau de cinéma, et voilà que vous parvenez à réaliser trois courts-métrages, dont un primé au festival du film policier de Cognac. Et à la suite de ça, on vous retrouve à Canal+, scénariste de la série H avec Jamel Debbouze et Éric Eramzy. Alors vraiment, je voudrais que vous nous expliquiez le fil conducteur de tout ça. On vous quitte assistant réal et vous devenez auteur.
Oui, ça s'est fait de façon un peu empirique. Depuis toujours, j'écrivais, parce que c'était vraiment une vocation, l'envie de devenir scénariste, qui était vraiment mon but dans la vie. Et donc, j'écrivais parallèlement au fait d'être assistant ou régisseur. Et j'ai commencé à faire des courts-métrages que j'ai écrits, que j'ai réalisés. Il y en a un qui s'est bien passé, d'ailleurs. Et puis, de fil en aiguille, j'ai rencontré d'autres scénaristes. Et puis, les choses se sont faites comme ça.
Les courts-métrages, vous les avez financés vous-même ?
Oui, le premier que j'avais fait à Bruxelles quand j'avais 20 ans, je crois, ou 21 ans, je l'avais financé avec l'argent de mon oncle, Rosé-Louis, que j'embrasse. Alors c'était un tout petit budget, hein, c'était un court-métrage. Et deuxième, oui, je l'avais financé moi-même. Ouais.
Il était étonné, impressionné, votre père ?
Il était assez
régisseur,
étonné.
Régisseur, oui, n'est-ce pas, étonné. Et producteur exécutif de cinéma ?
Oui, assez étonné et assez impressionné, je crois pas, mais surpris, moi je faisais les choses un peu dans mon coin, sans trop, je suis assez discret, enfin je l'étais du moins à l'époque.
Alors j'évoquais à l'instant la série H avec Jamel Debbouze et Éric Eramzy. À Canal, vous partagez les bureaux d'Omar et Fred et de Bruno Gassiot, quand vous écriviez aussi pour les Guignols. On peut s'arrêter un instant en fait, sur les délires quotidiens qui concouraient à la naissance de tous ces tournages-là.
Moi, je n'écrivais pas pour les Guignols, j'écrivais pour la chronique de Gassiot le midi. Avec, c'était d'ailleurs dans ses locaux ici, hein. C'était ici même.
Oui, parce que nouvelle adresse pour Europe 1, et nous sommes effectivement là où a régné Canal pendant de nombreuses années.
Oui, donc ça me rappelle des souvenirs.
Vous revenez à la maison là, Benabar.
Et oui, un petit peu, parce que ça a été un peu le début de ma carrière à proprement parler, parce que c'était la première fois où on me donnait de l'argent pour écrire, surtout. Pour moi, c'est quelque chose de très émouvant, parce que de pouvoir vivre de mon stylo, c'est quelque chose que je n'aurais jamais osé espérer.
Mais bon, votre école de scénariste, vous l'avez donc faite à Canal avec de vrais allumés qui craignaient pas de mettre à la poubelle des scènes sur lesquelles ils avaient planché pendant 5 heures. Avec eux, vous avez appris à désacraliser vos passions pour mieux les servir. Comment avez-vous bossé avec Bruno Gassiot, par exemple ?
Avec Bruno, on était deux auteurs avec Philippe Jean Gréco. Et le but du jeu, c'était de lui donner des vannes ou des pistes de vannes. Et puis, lui, ce qu'il disait, c'est que nous, on faisait les courses et lui, il cuisinait derrière. mais j'étais pas très bon dans ce boulot-là. Bruno est un gars super, était un très bon patron. Et très indulgent, très bienveillant, très grand frère.
Vous dites que j'étais pas très bon, non, mais en fait, vous occupiez une place qui était importante. Il y a des milliers de jeunes auteurs qui certainement auraient rêvé de bosser en direct avec Bruno Gassiot, justement, sur Canal.
Ah oui, mais j'étais plus, justement, construire des histoires comme sur H, où il y avait vraiment des situations à trouver, que débiter de la vanne au maître, qui a un boulot magnifique, hein, mais que font plus les Guignols, mes copains des Guignols, qui sont encore mes potes d'ailleurs, qui, eux, pouvaient trouver sur une interview de Jacques Chirac 50 vannes. Moi, mon truc, c'était plus d'imaginer des histoires. Donc, c'est pour ça que je me suis très vite orienté sur H, où il fallait justement écrire des situations
et faire de la fiction. Ouais. Alors, comment la musique s'y est-elle prise, en fait, pour faire de vous un chanteur au milieu des années 90 ? Parce que là, à nouveau, on change de planète.
Oui, c'est vrai, c'était encore l'écriture, c'est parallèlement à cette période-là, je commençais à jouer, parce que je faisais un peu de musique avec un copain, donc on jouait un peu dans les bistrots en bas de chez nous, enfin voilà, c'était vraiment sans aucune ambition d'ailleurs. Et puis de fil en aiguille, j'ai rencontré une manageuse qui m'a fait signer un petit contrat, et puis on a commencé à tourner en province, mais encore une fois, moi je me suis jamais projeté en tant que chanteur, donc je travaillais à Canal, et puis le week-end j'allais jouer en France, un peu où on voulait bien de nous.
C'était plus pour le plaisir en fait.
Ouais, pour le plaisir, sans me poser trop de questions, très naturellement.
Alors pendant 5 ans tout de même, vous avez chanté dans des bistrots. À cette époque-là, donc pas d'interview, pas d'album qui marche, des tournées parfois foireuses, j'ai appris ça en dormant à 5 musiciens dans une chambre d'hôtel Formule 1. Vous dites qu'on apprend beaucoup et on se forge un mental d'enfer quand on traverse tout ça.
Oui, c'est vrai, c'est cette période-là qui était pour moi une période très heureuse, hein, de pouvoir partir avec des copains sur les routes de France pour jouer de la musique, c'est quand même c'est inespéré comme occupation. Mais c'est vrai que ça forge aussi le caractère, et je regrette ça par rapport à mes jeunes et confrères et consoeurs qui débutent aujourd'hui, qui sont très vite balancés sur des grandes salles ou dans des grosses émissions de télé, de pas avoir cette période-là de construction qui sert beaucoup par la suite.
Mais alors, jouer de la musique, quelle musique ? Est-ce que vous êtes tout de suite trouvé ?
Bah, on me dit que oui. Je fais attention à pas analyser mon propre parcours parce que Dieu sait si je suis narcissique pourtant, mais pas à ce point-là.
Il le faut un tout petit peu quand même pour être artiste.
Mais on me dit que oui, et je crois aussi quand je réécoute les premières chansons, ce qui m'arrive vraiment rarement. Mais il y avait cette envie de raconter une histoire déjà, donc l'écriture de raconter des choses un peu du quotidien en essayant de les sublimer, c'était en essayant de le rendre universel dans une chanson, mais de m'inscrire dans une chanson française très académique, très écrite, un peu à l'ancienne, hein, ce que j'assume parfaitement.
Oui, oui, oui.
Moi, j'ai conscience de faire ce qu'on appelle de la chanson française, ce que retrouvent d'ailleurs les jeunes rappeurs de plus en plus, ce qui m'enchante d'ailleurs.
Oui, Aurel San, vous dites d'ailleurs, avec Big Flo et Oli,
raconte
des histoires, ouais, ouais. Voilà.
Et c'est que, je ne sais pas s'ils en sont conscients, mais ils ont un retour à une chanson très à l'ancienne qui, moi, fait ma joie. Donc moi, je suis très content que ça revienne, parce que ça a été longtemps décrié. Souvent, il y a eu toute une période, beaucoup de gens de mon âge qui faisaient de la chanson un peu à la Bachung. On ne comprend pas trop ce qu'on raconte, mais tout compte un peu dans le son et puis dans l'attitude, surtout, il faut bien le dire pour certains. Et moi, je suis enchanté qu'on revienne aux histoires, parce que je pense qu'on en a besoin.
On fait une pause très courte. On retrouve tout de suite Benabar.
Europe 1.
3h30, on retrouve donc le chanteur Bruno Benabar au micro d'Isabelle Morizet. Bruno Benabar à l'affiche d'un film qu'il a coécrit avec le réalisateur Hector Cabello-Reyes, qui a pour titre Beaux-parents et dans lequel il joue aux côtés de Josiane Balasco et Didier Bourdon. Film qui sortira en salle ce mercredi. On en parle bien évidemment cet après-midi, mais on se penche aussi sur son parcours de vie avec Isabelle Morizet. Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie, jusqu'à 16h sur Europe 1.
Benabar, Michel Drucker vous a dit un jour, t'as de la chance, t'es pas à la mode, donc tu seras jamais démodé. Alors il paraît que ça vous a troublé, voire chagriné, mais à la réflexion, vous dites assumer ce côté variété populaire alternative, très loin des sphères de la branchitude. Quelque part, et alors je reprends vos propos, quelque part entre Joe Dassin et les Négresses Vertes, c'est ça ?
Bah, idéalement, oui, moi, c'est mon objectif, en tout cas, de prolonger une variété chanson française, parce que maintenant, c'est devenu un peu mélangé, parce que c'est Souchon, c'est de la variété, mais c'est aussi de la chanson française, Cabrel, Jean-Jacques, tout ça, sans prétendre, évidemment, me mesurer à ces grands aînés, mais être dans cette continuité-là, c'est-à-dire que ne pas renoncer au texte, à une des réelles ambitions artistiques et notamment poétiques, dans le meilleur des cas, mais en même temps vouloir s'adresser à tout le monde et en même temps conserver, coûte que coûte, cette volonté de divertissement, de spectacle. Moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur énormément, quoi, de faire du divertissement. Et ce qui ne veut pas dire quelque chose de bébête ou de quelque chose de racoleur, le divertissement, contrairement à ce que pensent les cons, c'est que le divertissement, ça peut être très intelligent, très fouillé, très profond.
Et puis, il y a une autre dimension qu'il faut évoquer dans votre répertoire, Benabar. Il y a toujours eu une forme, en fait, de lutte des classes qui se joue au travers de l'artisanat de la chanson. Cette chanson populaire, traditionnelle, que vous aimez tant.
Ah bah oui, vous avez tout dit, il y a une vraie lutte des classes qui est indiscutable. Il y a toute une petite aristocratie parisienne. Qu'on connaît tous, hein, j'enfonce des portes ouvertes là.
Ceux que vous appelez les petits marquis poudrés, n'est-ce pas, de la branchitude,
Oui, des courtisans,
germanopratines, dont vous êtes l'adversaire désigné.
Bah, je le suis devenu. Je l'ai pas choisi, mais ça me déplaît pas. Ça me déplaît pas. Et alors c'est un peu moins violent en ce moment parce qu'ils ont un peu perdu la bataille, parce que les choses se sont vues. Non pas que je sois meilleur qu'eux, parce qu'il y a des gens qui sont très talentueux, mais c'est vrai qu'il y a une volonté d'exclure le public. Il y a deux façons d'aborder ce métier. Ou bien ce qui compte, c'est de faire des concerts en province. Ou bien ce qui compte, c'est de faire des dîners à Saint-Germain-des-Prés, quoi. Mais c'est vrai que de leur point de vue, c'est pas complètement faux qu'un dîner bien choisi à Saint-Germain-des-Prés peut, pour eux, valoir une dizaine de concerts en province. Moi, je pense l'inverse. Mais les deux se valent. Mais moi, il y a une version que je trouve déshonorante.
Alors, ce métier, vous l'aimez, Benabar. Mais vous savez très bien le jauger de l'extérieur. Vous dites, par exemple, que c'est pas normal de signer des autographes.
Oui, bah c'est pas naturel. C'est-à-dire déjà d'être dans une salle où vous avez un micro et avec vous qui parlez, c'est quand même. si on n'est pas un peu solide avec son ego, on peut vite devenir complètement barjot. Après, les autographes, maintenant, il y a quelque chose d'amical et d'affectueux aussi. C'est un contact avec les gens, un souvenir. Mais c'est vrai quand on débute, il faut savoir que c'est pas normal.
Alors, il faut être fan de soi-même pour devenir une star. Auriez-vous un ego un petit peu trop normal ?
Je sais pas, parce que vraiment, je suis de moins en moins normal, si je tentais que j'ai jamais été, mais
pas de plus en plus tard.
Pas de plus en plus tard.
Grande vedette populaire, mais
Ouais, j'ai jamais accordé beaucoup d'importance à la célébrité, les trucs comme j'ai compris que ça existe, mais c'est pas quelque chose qui m'obsède ni dans un sens ni dans l'autre, parce que c'est quelque chose de plutôt agréable. Mais c'est pas quelque chose qui m'obsède. Mais Dieu, mais je suis, vraiment, vous l'avez dit, hein, très très égotique, orgueilleux, mais pas forcément par rapport à ça. C'est-à-dire que si j'avais continué à être régisseur, je serais autant égotique et orgueilleux.
Voilà, on peut l'être dans plein d'autres métiers de la même façon et pour les bonnes raisons.
Exactement.
Alors Benabar, cet égo non surdimensionné, eh ben, il ne vous empêche pas de vivre de grandes aventures. Par exemple, au début de la décennie, les studios Pixar vous ont demandé de venir chanter en Californie, dans le ranch de George Lucas, le créateur de Star Wars, parce que John Lasseter, qui réalisait Cars 2, connaissait tous vos albums et voulait que vous chantiez en français sur sa BO. Ils se sont déroulés comment les 4 jours chez George Lucas ?
C'était passionnant, évidemment, et puis terriblement angoissant, la peur de décevoir. Et puis, ça a été très... D'une part, moi, c'est un génie pour moi, George Lasseter. C'est quelqu'un un peu comme Chaplin, quoi. C'est ce qu'il a fait avec Toy Story. C'est un homme qui compte vraiment et qui comptera de plus en plus, quoi, dans la culture populaire, quoi. Donc, moi, j'étais terriblement impressionné. Et j'ai appris... la façon aussi de bosser des Américains, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, cette façon très détendue, très cool. George Lasseter, il a une chemise hawaïenne, il a l'air de sortir de...
Mais attention, très directive.
Et très directive et très sérieuse, quoi. Et ça, j'ai retrouvé ça, c'est marrant, je sais pas si elle le sait, j'en ai pas parlé avec elle, mais avec Josiane, par exemple, typiquement, ou Didier aussi un peu comme ça, mais Josiane, vachement. C'est qu'on est très détendu, on déconne, mais quand on travaille, et puis il faut que ça avance. Il faut que le boulot soit fini à la fin de la journée, parce qu'il y a beaucoup de gens dans nos métiers... qui aime bien travailler dans la douleur, qui aime bien faire souffrir, il faut pleurer, sinon c'est pas bien, quoi. Là, c'est un peu le contraire, mais par contre, c'est tout aussi exigeant, voire plus.
Et le ranch de George Lucas, il ressemble à quoi ?
C'est un truc étonnant, parce que ça ressemble à une maison de Quaker des débuts du siècle. Et puis en dessous, il y a des audits, des derniers cris, enfin, c'est complètement
délirant. Quand on arrive de l'extérieur, c'est comme un ranch un peu mexicain, traditionnel.
Ouais, exactement.
Et puis, vous savez, c'est comme dans les films de James Bond,
exactement.
Avec le méchant qui a son univers et sa planète cachée dans les entrailles, dans le ventre de la Terre.
Dans une base sous-marine, un truc comme ça. C'est exactement ça.
Donc, vous avez passé 4 jours avec eux en Californie. Le lendemain de votre retour en France, Benabar, vous étiez sur une scène de théâtre face à Jacques Weber pour interpréter une pièce de Fabrice Roger Lacan, quelqu'un comme vous. On peut dire que vraiment vous aimez faire pulser le quotidien. D'ailleurs, vous dites parfois « j'ai un plan B ». Vous avez peur que ça s'arrête alors que tout le monde vous aime depuis plus de 20 ans ?
Merci. Oui, il y a de ça, ça c'est sûr. Ouais,
parce que vous êtes boulimique, vous êtes un hyperactif.
Oui, un peu. Et puis c'est vrai qu'elle a peur que ça s'arrête. L'envie aussi de se remettre en question tout le temps, de rester vif, quoi. Et c'est quelque chose qu'il faut aussi que je contrôle un peu plus, quoi, parce que c'est épuisant d'une part. Et puis j'ai plus 35 ans.
Dit-il avec une frimousse tellement juvénile.
J'ai 50 ans quand même, aujourd'hui même d'ailleurs.
Mais bon anniversaire, Benabar.
Alors
là,
beaucoup.
Tous les auditeurs d'Europe 1 se joignent à moi pour vous embrasser affectueusement.
Merci à tous.
Pour quelqu'un qui fait 29 ans pour toujours, je trouve ça épatant.
Oui, mais je suis arrivé au maquillage à 7h du matin.
Bon, d'accord. On continue dans un instant notre balade épatante en compagnie de Benabar. À tout de suite.
Il aime raconter des histoires, mais c'est son histoire qu'on aime découvrir cet après-midi. Benabar est l'invité d'Isabelle Morizet. Jusqu'à 16h, vous écoutez « Il n'y a pas qu'une vie dans la vie ».
Benabar, on évoquait à l'instant Jacques Weber, monstre sacré du théâtre français, avec lequel vous avez eu le bonheur de jouer sur scène. Il paraît qu'un jour, plantant ses yeux dans les vôtres, Jacques Weber vous a confié ceci. Les chanteurs peuvent jouer certains rôles, mais pas tous. Vous avez élucidé l'énigme ?
Oui, mais je pense qu'il a raison.
Mais vous avez réagi comment quand il vous a dit ça ?
Très bien, parce qu'il en a un peu marre qu'on lui pose la question à chaque fois, ça vous fait quoi de jouer avec un chanteur, vous qui êtes une légende du théâtre, etc. Et il m'avait dit ça très gentiment, parce qu'on était juste tous les deux sur scène, donc on a en tournée, donc c'est toujours délicieux les tournées quand on est deux, parce qu'on partage un dessert à deux, parce qu'on fait gaffe à nos lignes, etc. Donc on se fait des confidences. Et il m'avait dit ce truc-là, il dit non, mais les chanteurs peuvent très bien jouer, il n'y a pas de raison. Mais ils ne peuvent pas tout jouer, et je pense que c'est tout à fait vrai.
Alors qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas jouer, les chanteurs ?
C'est-à-dire qu'un acteur, par définition, doit pouvoir tout jouer et doit vouloir tout jouer, surtout. Ils essayent de progresser dans leur métier d'acteur, ils peuvent jouer un assassin, un flic, un curé, tout ce que vous voulez. Et un chanteur, ou quelqu'un d'autre d'ailleurs, quel que soit son autre métier, qui fait l'acteur,
peut pas forcément tout jouer. Et trop préoccupé lui-même et de l'image que lui donne notre métier.
Il n'a pas le métier, il n'a pas l'expérience. Et ça, c'est quelque chose que j'applique encore aujourd'hui, notamment dans le dernier film. Il y a des trucs que je refuse. On ne propose pas des milliards de choses, mais j'ai refusé des trucs justement parce que je me disais, bah non, je ne me sens pas de faire ça.
Je peux vous demander ce que vous avez refusé, par exemple?
Non, mais pas mal de trucs. Et puis, je ne veux pas être désobligeant pour des trucs.
Non, mais on va dire comme type de rôle.
Bah, des rôles où on m'avait proposé un rôle très dur de quelqu'un qui était très violent avec sa femme, entre autres. Et voilà, c'est un rôle que je me sentais pas de faire ou d'assumer, enfin, ou de... Et surtout, j'avais le sentiment que je le ferais pas bien, et il faut s'écouter aussi là-dessus.
Et pourtant, je me permets de dire que Yves Montand excellait dans tous les genres, comédie comme Polar, ou même film politique, je pense à Z. On peut citer également Dutronc, Van Gogh, Bruel, Marc Lavoine, Benjamin Biolay, Philippe Catherine. Vous avez le sentiment que dans l'imaginaire collectif aussi, un chanteur-acteur demeure avant tout un chanteur?
Non, il y a des exceptions, évidemment, mais tous ceux que vous avez cités font pas partie de la même famille, quoi. Il y a différents degrés aussi de talent et de capacité aussi à pouvoir faire les deux. C'est sûr que Montand, Reggiani, et puis après il y a aussi au bout d'un moment, c'est typiquement Bruel, il a fait aussi beaucoup beaucoup de rôles, donc maintenant il a un peu les deux, comme Marc aussi.
Ouais. Alors parlons de la comédie Beaux-parents qui sort en salle mercredi. Benabar, Garance se sépare d'Harold. Harold, c'est vous. Garance ordonne donc à ses parents de ne plus jamais revoir leur gendre. Sauf que, ils l'aiment beaucoup, leur gendre. Elle l'a largué, mais pas eux. Eux, c'est Josiane Balasko et Didier Bourdon. Vous êtes offerts à des beaux-parents de cinéma irrésistibles en écrivant le scénario. Vous les imaginiez dans les rôles des beaux-parents quand vous écriviez à 80?
Non. Et on s'était justement interdit avec Hector de commencer à projeter des acteurs dessus. Moi compris, d'ailleurs, pour revenir à la conversation. Non, pas du tout. Ça s'est fait après, mais c'était d'espérer d'avoir un casting de ce niveau-là. Mais j'inclus dedans Charlie Bruno.
Qui est excellent
dans le film, qui fait remarquablement le
rôle
de... Qui joue
donc votre chérie.
Et oui, voilà, qui joue le rôle de Garance, et qui a un rôle pas facile, parce que c'est... Elle pourrait passer pour la méchante dans le film, pour une fille un peu capricieuse, un peu chiante, un peu... Et c'est pas du tout le cas, grâce à l'interprétation de Charlie.
Et puis il y a Bruno Salomon qui excelle, comme toujours.
Il y a Bruno Salomon qui fait le meilleur ami d'Harold que je joue, qui est... très sex addict, faut le dire, mais en même temps très amoureux de sa femme. Et puis il y a Fred Bourali de Scène de ménage, qui
bien sûr,
Scène de ménage, qui est avec nous aussi.
Et puis il y a, et alors vous avez une idée tout à fait inattendue, c'est celle de convier donc à ce tournage, dans le rôle du grand-père, le plus grand baryton du XXe siècle, homme sublime de charme qui fut le Don Giovanni de Lauzet, Ruggero Raimondi en personne. Vous l'avez convaincu comment, Ruggero Raimondi? Parce que il doit avoir un agenda qui est noirci 4 ans à l'avance.
Bien, oui. On a eu cette idée-là avec Hector, et on a tenté notre chance, en fait. Et puis lui, il a lu le scénario, ça lui a plu, il est venu.
Comme ça?
Oui, ça s'est fait de façon très très simple. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai noté aussi dans ce métier-là. C'est-à-dire que plus la personne est talentueuse et parfois un peu légendaire, j'ai vu aussi ça avec des acteurs, des chanteurs, plus c'est quelqu'un d'installé et d'indiscutable, plus les rapports sont simples. Ceux qui minent d'autres sont souvent les gens qui ne sont pas sûrs d'eux-mêmes, donc ils sont un peu dans des périodes où ils se posent plein de questions, souvent des mauvaises questions d'ailleurs. Et donc ça se passe très bien avec des gens comme ça, parce qu'ils nous auraient dit non, ou un agent nous aurait dit non. Puis ça lui a plu, donc il a fait en sorte que ça se passe, et c'était un bonheur de pouvoir...
Mais Ruggero Raimondi n'avait jamais joué dans une comédie populaire.
Pas dans mon souvenir, non. Et c'est lui qui a la réplique de fin du film où il dit...
Absolument.
Familia di coglione.
Et ça parle à l'italien que vous êtes.
Ça va parler à ma mère, je pense. Ouais.
Benabar, qui s'appelle en réalité Bruno Nicolini.
Alors ça, bon. C'est corse, attention. Alors là, je suis obligé de préciser, parce que mon père avait écouté l'interview. Et alors là, c'est le côté de mon père, c'est corse. Et c'est bon, pas alors. Cheat, du côté de ma mère.
Bon, alors attention, hein.
Foutez pas le bordel dans la famille.
Oh là là, Dieu sait si je ne souhaite pas ça. Ouais. Attention, en paix avec tout le monde.
Ah oui, c'est pas vous qui mangez avec eux le dimanche. Hein.
On aime les Corses, on aime les Italiens.
Absolument. Europe.
Bon, tout ça donne une comédie réjouissante dont Fedo vraiment n'aurait pas rougi. Et je parle d'un Fedo contemporain, bien sûr. Beaux-parents sort en salle mercredi. Et avec Benabar, on a encore plein de choses à se dire. À tout de suite.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1.
En plus d'être en tournée pour son dernier album, Benabar est à l'affiche de Beaux-parents et il est avec nous pour quelques minutes encore sur Europe 1. C'est l'invité d'Isabelle Morizet.
Benabar, la chanson, la scène, l'écriture, le théâtre, le cinéma avec cette comédie Beaux-parents qui sort en salle mercredi. En fait, vous êtes un artiste tout terrain qui affirme jamais je ne serai producteur. Vous avez beaucoup de dons, mais pas celui d'accoucheur.
Merci déjà pour le compliment. Aider, ça m'est arrivé déjà de participer financièrement à des projets d'autres, mais ce travail de producteur, c'est pas banquier justement, c'est vraiment, il y a ce travail d'accoucheur, vous l'avez dit, ce côté sage-femme, ce côté envie aussi d'accoucher, et ce côté regard extérieur que je ne peux plus avoir, parce qu'en fait j'ai un point de vue de chanteur ou d'acteur ou de scénariste.
Mais c'est formidable justement d'avoir des points de vue.
Mais oui, mais ça, souvent les chanteurs qui produisent d'autres chanteurs, ça donne pas forcément très bien, parce que c'est, on a envie en fait de se retrouver pour probablement, il doit y avoir quelque chose comme ça.
Alors, par exemple, coach à The Voice, ce serait pour vous un exercice pas évident.
Ah ben moi, je pourrais pas. Moi, j'ai refusé tous les trucs de jury, tout ça. Je me sens pas de dire à un gamin qu'il faut que je chante comme ci ou comme ça. Je me reconnais pas du tout cette autorité. Puis surtout, je lui dirais comment je chanterais moi. Alors que c'est pas ça le but du jeu, c'est de dire comment lui doit le chanter. C'est là où ça. Mais d'ailleurs, certains le font super. L'autre fois, j'ai vu mon copain Patrick Fiori. Lui, justement, il a cette démarche-là où vraiment il aide le gamin. Moi, je saurais pas faire ça. Moi, je dirais plutôt, bah, moi, je chanterais comme ça, mais ça a pas de sens, quoi. Ça m'aiderait pas.
Bon, Benabar, c'est Barnabé en verlan, un pseudo que vous êtes choisi. Allez, on va dire, il y a un petit quart de siècle au début de l'aventure, sans référence à votre prénom qui est Bruno. Ça dit toujours des choses, les pseudos, hein. Mais ça dit des choses à l'instant T. Alors, j'aimerais savoir, en 2019, donc, à 49 ans, on va dire 50 dans une heure, Benabar, n'est-ce pas? Eh bien, est-ce que Benabar, c'est un pseudo qui vous ressemble toujours?
Ouais, je crois. D'ailleurs, maintenant, sur l'affiche du film, on a mis Bruno Benabar. Ce qui est un peu troublant, un peu troublé mes parents d'ailleurs.
Ah.
Parce que, on m'appelle de plus en plus Bruno d'ailleurs, parce que c'est très rare qu'on m'appelle Benabar en fait, y compris les gens qui viennent nous voir sur scène. Donc c'est devenu un peu un pseudo de famille maintenant, un Bruno Benabar, même si je suis très fier de mon nom, Nicolini, en plus, que je trouve très joli, donc je dis ça si mon père nous écoute.
On entend bien. Mais pourquoi Bruno est-il venu se greffer comme ça? Pourquoi cette nécessité?
C'est devenu de plus en plus Bruno Benabar, quoi. On m'appelle souvent Bruno, en fait, plus que Benabar. Et donc, c'est devenu comme ça. Mais c'est vrai, vous l'avez dit, les pseudos, ça cache que... Puis déjà, le fait de prendre un pseudo, ça veut dire quelque chose. C'est aussi un costume qu'on met. Ça m'a aidé pas mal au début de ma carrière. Maintenant, j'en aurais moins besoin, mais je me suis attaché à ce pseudo... Et puis ça se fait comme ça en fait. Des fois, à mon avis, vous savez, des fois il faut pas se poser certaines questions.
Bon alors on va pas creuser davantage.
Ne posons pas les questions quand on veut pas connaître les réponses.
Voilà, très bien. Alors je peux peut-être parler de votre image parce que votre image, vous ne la livrez pas en pâture. On vous voit pas, par exemple, enlacer votre épouse dans les tribunes de Roland Garros.
Non.
Vous vous méfiez de ces rituels médiatiques auxquels se plient la plupart de vos camarades?
Oui, en plus, ma femme m'en veut beaucoup parce qu'elle aime beaucoup le tennis. Non, mais en plus, elle m'en veut pas parce qu'elle non plus, elle veut pas du tout jouer ce jeu-là. Mais ça l'emmerde pour Roland Garros.
On voit aussi très bien les matchs à la télé.
Exactement, hein. Bon. Très bien. Ben voilà, mais... tu t'entends, Stéphanie. Il n'y a pas que moi qui le dis.
Alors, Benabar, vous vous définissez comme un dépressif de bonne humeur, mais j'ai envie de rajouter tout de même un dépressif de bonne humeur beaucoup moins sage qu'il n'y paraît et qui assume des choses non politiquement correctes. Par exemple, la notion d'excès. L'excès, quand il touche à l'ivresse, est pour vous, paraît-il, une forme de lâcher prise dont vous appréciez l'état.
Ah oui, moi c'est...
Bon, si vous ne prenez pas le volant de votre voiture, bien sûr.
Exactement.
Mais cette espèce de chavirement dans le lâcher prise.
Oui, ça j'aime beaucoup l'ivresse. J'aime pas la notion de souvent ressasser, de modération permanente. Moi je pense qu'il faut aimer sans modération. Voilà, moi j'aime bien boire trop, manger trop, passer 4 heures à table, avoir des grandes discussions enflammées, enfin ce côté très français, oui, un peu chauvin, moi j'aime beaucoup ça. Moi en effet, je ne suis pas du tout un petit saint, contrairement à peut-être l'image que je peux renvoyer, mais bien malgré moi, parce que je n'ai jamais essayé.
La bouille de gendre idéal, c'est ça?
Oui, c'est ça, c'est une question de bouille.
Alors justement, vous fêtez aujourd'hui vos 50 ans alors que vous en faites 29, mais cet anniversaire, il va changer quoi désormais dans votre tête? Allez, à partir de demain.
Puisqu'on en est aux confidences, je me pose ces questions-là. Parce qu'il y a encore quelques jours, je me disais, je m'en foutais... c'est un âge de... Et puis c'est vrai que j'ai pas de problème à vieillir. Puis moi j'ai des enfants, donc moi je trouve ça génial de voir les enfants grandir. C'est pas un truc... La vieillesse, c'est pas un truc qui m'obsède ou qui me rebute du tout. Mais c'est vrai que là, je sens qu'il y a quelque chose d'un peu intérieur, souterrain, qui commence à se dégager, qui est un peu plus sombre, enfin un peu plus angoissé, un peu plus... un peu plus profond que je ne le pensais. Je ne pense pas que ça va pas passer comme 46 ans, 47 ans.
D'accord, mais l'hyperactif que vous êtes songe déjà à de nouveaux défis ?
Oui, là on est en pleine tournée de festival, et puis il y a un nouvel album le plus vite possible, on travaille dessus d'ailleurs.
Qui devrait sortir quand ?
J'espère à l'automne, si on a des chansons dignes de ce nom.
Bon, en tout cas, on sait que dès mercredi, on peut aller en salle, se réjouir devant un vaudeville ultra contemporain, vraiment très très bien troussé, bien ficelé, réalisé et interprété, avec à l'affiche Benabar, mon invité, entouré de Josiane Balasco, de Didier Bourdon, de Charlie Bruno, de Bruno Salomon,
de Fred Bourali,
et de Ruggero Raimondi, dont toutes les femmes sont tombées amoureuses pendant le tournage.
C'est pour l'avoir vu, maintenant c'est un monsieur d'un certain âge, il a toujours cette prestance dont tous les hommes peuvent être jaloux.
C'était un bonheur de faire l'école buissonnière avec vous, Benabar.
Merci beaucoup.
À très vite. Et puis je vous souhaite un bel été.
C'est gentil, pareil.
C'était Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet revient bien sûr le week-end prochain de 15h à 16h sur Europe 1 avec de nouveaux invités, parmi lesquels la chanteuse Lara Fabian, 20 millions d'albums vendus, 30 ans de carrière et surtout ce nouvel album dont elle va nous parler qui a pour titre Papillon. C'est comme ça que l'a surnommé sa grand-mère, Papillon.